L'atelier des médias.
Est-ce que vous m'entendez ?
La web émission participative.
1, 2, 1, 2.
RFI.
Il n'y a plus de son. Vas-y, t'as du son, toi ?
Donc Olivier Bertrand, Libération. Pour dresser très rapidement le contexte, il y a maintenant un peu plus d'un mois, on a découvert un projet sur lequel, en fait, travaillait en secret l'un de nos actionnaires. Un projet dans lequel il y avait un restaurant, un café, un incubateur de start-up, un vaste réseau social, un lieu culturel. Mais il n'était pas connecté avec une rédaction parce que dans ce lieu-là, il n'y avait plus de rédaction. C'est-à-dire que l'idée de notre actionnaire, c'était quelque part de monétiser la marque Libération, de la décliner, mais en faisant partir du lieu où l'on monétise les journalistes, ce qui crée l'information.
Libération, le quotidien français cofondé par Jean-Paul Sartre, vient de fêter ses 40 ans, vous le savez si vous nous écoutez régulièrement. Cet anniversaire est célébré sur fond de crise. La semaine dernière, samedi 15 mars, les employés du journal ont ouvert leurs portes au public pour une journée Open Libé de rencontres avec une rédaction en désaccord avec ses patrons. Quelques jours avant, un barcamp sur le futur de Libé était organisé à Numa, l'espace dédié aux nouvelles technologies au cœur de Paris. Un lieu porté par la même équipe que la cantine numérique. Nous étions présents avec Raphaël Constant et Manon Mella lors de ces deux événements. Nous y avons rencontré des salariés et des lecteurs de Libération pour comprendre ce que vit ce quotidien et vous raconter à travers leur regard les difficultés qu'ils traversent aujourd'hui. Émission spéciale Crise à Libération dans l'atelier des médias cette semaine.
Moi, je vais vous dire assez rapidement ce que c'est qu'un barcamp. Donc, c'est un format d'animation collective, comme on dit. Alors, la première règle, la règle de base, et d'ailleurs, c'est pas une mauvaise règle, c'est que ici, c'est un homme, une voix. Donc, vous aurez l'occasion de vous exprimer de façon directe et égalitaire. Ça se passe très simplement. Dans un premier temps, tout le monde ici va se présenter. C'est la règle. Et si on le fait pas, ben ça marche pas. On sait pas pourquoi, mais bon. Alors, vous essayerez d'aller assez vite. Donc, donnez votre nom et éventuellement donnez votre organisation, votre entreprise ou votre statut. Et si possible, trois tags, trois termes qui vont, sont supposés vous définir ou indiquer vos centres d'intérêt. Dans un deuxième temps, on vous demandera de participer à l'élaboration de l'ordre du jour, parce qu'il n'y a pas d'ordre du jour préétabli. C'est ce qu'on appelle une non-conférence. Donc moi je vais commencer, je m'appelle Paul Richardet, je suis salarié du Silicon Sentier Numa. Et puis mes tags sont la sérénité, collectif et puis le futur. Ziad, présente-toi.
Comme la centaine de personnes venues à Numa le 4 mars dernier au soir, Manon, Raphaël et moi-même, nous nous sommes prêtés au jeu de cette présentation introduisant le barcamp Libération au pluriel. Que sera Libé demain ? Une question posée dans un contexte de rupture entre les salariés du journal présents en nombre ce soir-là à Numa et les patrons de ce titre quarantenaire. Un titre qui perd plusieurs centaines de milliers d'euros chaque mois selon certaines sources. Vous vous souvenez peut-être que le 8 février dernier, Libération paraissait avec pour titre « Nous sommes un journal, pas un restaurant, pas un réseau social, pas un espace culturel, pas un plateau télé, pas un bar, pas un incubateur de start-up ». Une manière pour les employés de répondre à un projet d'un des actionnaires présenté quelques jours plus tôt, ayant pour objet de transformer, avec l'appui du designer Philippe Stark, le siège de Libération en, je cite, « un espace culturel et de conférences comportant un plateau télé, un studio radio, une newsroom digitale, un restaurant, un bar, un incubateur de start-up ». Fin de citation. Nous sommes un journal, ont répondu les salariés de Libé, et depuis le 8 février, Nous sommes un journal est devenu la marque de leur combat, employé pour un blog, une page Facebook, un compte Twitter et une rubrique quotidienne dans le journal.
RFI. Olivier Bertrand, je suis journaliste en poste à Marseille pour Libération. Et par ailleurs élu au comité entreprise de Libération.
Et Olivier, on t'a déjà entendu dans l'atelier des médias, à l'époque on avait fait une émission ensemble sur Marseille, la presse à Marseille. Tu es un des organisateurs de cette soirée donc dans ce lieu qui s'appelle Numa.
Oui, en fait c'est Numa qui s'était rapproché de nous au départ, en nous proposant de mettre le lieu à disposition et de construire une soirée avec eux, pour réfléchir ensemble à la situation de Libération aujourd'hui et à l'avenir de Libération, quelle Libération on peut construire pour demain. On a trois chantiers en fait en cours en ce moment, pour être bien clair. Un chantier très urgent de financement. On a un problème de moyen terme, qui est qu'on a aujourd'hui des actionnaires avec qui la défiance s'est installée et très forte. La confiance s'est cassée vraiment de façon peut-être définitive.
Et ce sont eux qui possèdent le journal, en tout cas d'un point de vue financier et économique.
En tous les cas, c'est effectivement eux qui sont actionnaires de référence de Libération et on n'a jamais coupé le dialogue, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une attitude de rupture, hein, simplement on est dans une attitude d'extrême vigilance. Hein. Et troisième chantier, c'est l'avenir de Libération, la construction d'un projet pour Libération et d'essayer de construire un projet qui soit commun à des journalistes et à des actionnaires. Après, je ne sais pas si tu veux un petit peu l'historique de ce qui s'est passé. En gros, on peut dire que Libération allait mal financièrement, comme beaucoup de titres en France, très mal, depuis plusieurs années, avec une aggravation de la situation l'année dernière, et avec en fait des retards qui ont été pris sur ces deux, trois dernières années, où le journal a été très peu dirigé, très mal dirigé, et où les projets qui doivent engager Libé dans des mutations prenaient énormément de retard. Face à ça, les salariés se sont alarmés, ont alerté beaucoup, sans être beaucoup entendus. On a ouvert à partir du mois de novembre 2013 une série de discussions sur un nouveau projet. Et puis soudain, début février, alors que les choses finissent par se crisper, parce qu'on se rend compte que les actionnaires ne discutent sur rien en réalité. Ils nous ont posé un projet qui nous semble encore une fois incohérent, déséquilibré. À partir de là, Libération s'est mis en grève en fait, début février, une journée de grève qui était comme une rupture, aussi une façon d'essayer de provoquer quelque chose, de débloquer quelque chose. Et la réaction à ça était que l'un des actionnaires, Bruno Ledoux, qui est en fait un investisseur immobilier, qui est présent à Libération depuis assez peu de temps.
Et qui est propriétaire du parking, justement, du bâtiment de Libération.
Et qui par ailleurs, par une autre de ses sociétés, est effectivement propriétaire en partie du parking dans lequel Libération a sa rédaction. Donc cet actionnaire, Bruno Ledoux, soudain, du jour au lendemain, produit un projet. Voilà quel est mon projet pour Libération. Et tout à coup, il met sur la place publique un projet dans lequel Libé est devenu un café, un restaurant, un espace culturel, un incubateur de start-up, mais plus une rédaction. C'est-à-dire que les journalistes, eux, doivent déménager. C'est écrit tel quel dans son projet. Et c'est en fait un texte qui, à la fois, est envoyé à la rédaction de Libération et qui, en même temps, est envoyé à l'extérieur. De mémoire, je crois que c'est un communiqué qui est envoyé à l'AFP. Quand les journalistes reçoivent ce texte-là, c'est un vendredi après-midi, d'abord, une partie d'entre eux croit une blague. C'est tellement éloigné de toutes les discussions qu'on avait depuis 4 mois, du projet sur lequel on était en train de travailler, que certains disent « Mais non, ça va, c'est une blague. » Et puis d'autres disent « Mais je crois pas, non, regarde l'adresse, etc. » Et tout à coup, on réalise que c'est vrai. Et là, la rédaction se lève.
Et il y a eu un mail aussi qui a fait pas mal parler de lui, un mail qui n'était pas censé être rendu public, où cette même personne, donc Bruno Ledoux, insulte d'une certaine manière les salariés de Libé en disant en gros que vous êtes des personnes nanties, que vous vivez sur le dos des citoyens et qu'il faut rendre ça public. Enfin, un mail très en colère vis-à-vis des employés, des salariés, des journalistes de Libération.
Il faut savoir que ce mail a été envoyé avant la publication du projet.
C'est ça, c'est juste avant.
Au lendemain de la grève, en fait. Et le lendemain matin, vers 8h du matin de mémoire, effectivement, l'un des actionnaires, Bruno Ledoux, envoie aux autres actionnaires, à tous les autres actionnaires, un mail dans lequel, effectivement, il dit qu'il va ringardiser ces esprits étriqués qui vivent de l'argent public.
À la une, surtout, ce matin, la crise profonde qui secoue le journal Libération.
Oui, le quotidien qui, à l'instar de ses confrères en temps ordinaire, contribue à alimenter les revues de presse telles que celle-ci en France. Ce matin, Libé est de nouveau en kiosque, mais avec cette incroyable manchette, je cite, « Nous sommes un journal », pour ceux qui en auraient douté. Et en sous-titre, les confrères, manifestement très en colère, indiquent noir sur blanc ce que Libération n'est pas. Le journal n'est pas un restaurant, pas un réseau social, pas un espace culturel, pas un plateau télé, pas un bar, pas un incubateur de start-up. N'en jetez plus.
On a travaillé pendant 4 mois sur un projet qui n'avait rien à voir avec le projet qui nous a été révélé là. Donc entre ce texte qui tombe comme ça de nulle part un vendredi après-midi, puis le mail effectivement qu'on découvre le week-end, où on se rend compte qu'entre actionnaires, les salariés se font insulter, à la fois effectivement ça a fait monter une sorte d'indignation, de colère, mais finalement assez froide. Et ça a permis que les salariés décident de prendre le samedi matin la une du journal, l'événement du journal, de faire de mémoire, ça devait être 4 premières pages qui expliquaient la situation à Libération. Et on a décidé d'arrêter, d'être dans la confidentialité, d'être dans des postures responsables. Il faut savoir que depuis des mois, on a écrit, on s'est adressé souvent à nos actionnaires, des fois par écrit, hein, les courriers, on les a encore, qui n'ont jamais obtenu une réponse, dans laquelle à chaque fois, on prenait le soin de préciser, les salariés savent que la situation est grave, les salariés savent qu'il va falloir faire des efforts, qu'ils vont faire des efforts, mais ils demandent que ces efforts soient partagés. Tout ça, ça s'est fait à chaque fois discrètement, on s'adresse à eux. À partir du moment où on a ce texte, et on a le mail d'insulte, effectivement, là, on se dit, on est peut-être réellement en danger. Ce titre qui nous dépasse, qui a 40 ans, qui a commencé à exister avant que nous décidions, nous, de devenir journalistes, ce titre est peut-être en danger et nous devons défendre ce titre.
Et donc vous avez fait votre fameuse une, nous sommes un journal.
C'est comme un cri en fait. Une une, de toute façon, quand les choses sont claires, elle émerge facilement le soir en fait. L'accouchement est facile quand le propos est clair. Effectivement, c'est ce qui est sorti le soir. Nous sommes un journal, ce qui d'ailleurs peut-être a généré de l'ambiguïté. C'est-à-dire que je pense qu'à l'extérieur de Libé, certains ont compris que les journalistes de Libération voulaient dire « nous ne sommes qu'un journal papier ». Pas du tout. Et peut-être qu'il y aurait fallu titrer « nous sommes des journalistes hein, ». Nous sommes du journalisme, nous voulons rester des journalistes.
Nous sommes un journal et en dessous il y avait marqué « pas un restaurant, pas un incubateur, pas ». Et vous repreniez point par point tous les aspects du projet que vous aviez découvert quelques jours plus tôt. Et ça c'était donc le 8 février.
Après Ziad, comme on est dans l'atelier des médias, on peut creuser un petit peu. Et se dire qu'une une, c'est toujours réducteur, ça affirme quelque chose. Et si on devait la pousser plus loin, et si on ne soit plus seulement dans la une, mais dans un papier un peu plus long, et c'est ce qu'on fait maintenant depuis des semaines, on dirait, ça ne nous pose pas de problème d'être aussi un café, pas de problème d'être aussi un restaurant, pas de problème d'être aussi un incubateur de start-up, pas de problème d'être aussi un espace culturel, à condition que tout ce aussi se construise autour du journalisme, autour d'une rédaction.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui manquent ? Alors, liberté et finance. Alors, la valeur de l'info, la production de l'info, innovation éditoriale, ça y est, c'est parti. Le modèle économique. Peut-on vivre sans médias ? Une piscine sur le toit ? Non. Non, ça, c'est personne n'a marqué. Moins de morale et plus de politique. Lecteur, acteur ou consommateur ? On va regarder si on peut réunir des thèmes.
Oui, mais... Non, mais simplement... L'idée, tu la trouves bonne, très bien. Simplement, il faudra analyser pourquoi on a préféré faire un Next à Libération, qui, pour moi, n'est pas du tout un truc que les gens revendiquent au niveau culture. C'est une pompe à fric. Mais la pompe à fric est importante pour le fric et pour les salaires de Libération. Mais au niveau image, pour moi, c'était une catastrophe.
La clé, à mon sens, alors moi, pour que les choses soient claires, d'où je parle, je travaille à Mediapart depuis 6 ans, donc avec un modèle particulier, très orthodoxe, mais qui fonctionne, puisqu'on gagne de l'argent et de plus en plus. Mais c'est l'adéquation entre un modèle éditorial et un modèle économique. Et monsieur, pardon, dont j'ai oublié le prénom, vous dites, mais ça, c'est pas la bonne question, grosso modo, puisque, de toute façon, ça marche pas. Il n'y a pas de quotidien qui vit sur son seul socle éditorial. Mais c'est une résignation qui est terrible, à mon sens. Pourquoi un quotidien ne pourrait pas, par le seul journalisme, gagner de l'argent ? Mais c'est précisément parce qu'aujourd'hui, l'industrie de la presse, comme vous l'avez dit, c'est une industrie extrêmement lourde qui ressemble de plus en plus à la sidérurgie, avec des coûts de fabrication qui sont monstrueux, l'impression, le papier, des coûts de distribution qui sont absolument insupportables et qui fait qu'on a des journaux qui aujourd'hui coûtent 1,50€, 1,80€, bientôt 2€, 2€ je crois pour les Échos ou Le Monde, qui sont des tarifs absolument inouïs quand on veut considérer que la presse est un outil démocratique, un outil de masse qui doit s'adresser au plus grand. Donc là, il y a un problème qui est industriel, mais c'est un problème qui est lié au contenant. Et le contenant, on s'en fout.
Bonjour, Maëlle Nizan, je travaille chez Silicon Sentier, qui est l'association à l'origine de ce lieu Numa dans lequel on est.
Et donc c'est vous, c'est peut-être même toi, qui a un peu eu l'idée de cette rencontre, de ce barcamp, comme on dit, autour du projet, du futur de Libération, c'est ça ?
Je ne suis pas le seul, c'est en discutant avec Claudio et Nata, avec qui je travaille. On suivait évidemment ce qui se passait à Libé. Il y a deux choses qui nous ont interpellés. C'est d'un côté, dans le projet des actionnaires, cette idée de créer un lieu dans la rédaction de Libé, donc d'en faire un restaurant, d'en faire un bar, un incubateur de start-up, etc. Et nous, ça nous intéressait beaucoup, parce qu'on a vu le truc, on imaginait ça avec les journalistes. Donc comment tu crées un lieu un peu comme le nôtre, dans lequel tu mets une rédac et plein de gens qui gravitent autour.
Parce qu'il faut préciser que ça ressemble beaucoup à votre lieu, c'est ça ?
C'est exactement notre lieu. Donc il y a cette idée autour du lieu qui nous a pas mal enthousiasmés. On a été un peu interpellés aussi sur Twitter, il y a quelques personnes qui nous ont dit « Libé veut faire un Numa du journalisme, etc. » Donc ça nous a fait un peu rigoler. Et le deuxième élément, c'est justement quand les salariés ont commencé à créer les pages « Nous sommes un journal » et décidé de médiatiser un peu ce qui se passait, de prendre le lecteur à partie et d'inviter les lecteurs à partager aussi leur vision du journal, qu'est-ce qu'ils avaient envie de lire justement et à quoi devait ressembler Libé demain. Et ça qui nous a vachement intéressé. Donc à partir de là, On a simplement envoyé un petit mail à Florent Latrive, qui est donc un des journalistes de Libé, que j'ai déjà croisé pas mal d'événements ici, qui a été ultra enthousiaste, qui m'a dit que dans le mail, je précisais qu'on le ferait de toute façon avec eux, et que s'ils ne voulaient pas le faire avec nous, on ne le ferait pas de notre côté. Lui, il était ultra enthousiaste.
Tu lui as dit quoi dans le mail, en fait? Tu lui proposais quoi?
Alors, très simplement, j'ai repris un peu ce que je viens de te dire, j'ai synthétisé ça, et je lui ai dit qu'il y avait sans doute une opportunité de poursuivre un peu la démarche qu'ils avaient et d'inviter des lecteurs, des journalistes, des gens des nouvelles tech, parce que c'est les gens qui fréquentent notre lieu, à réfléchir au Libé qu'on voulait lire ou écrire.
Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est que donc le lieu qui a été décrit par les actionnaires comme un lieu du futur, qui en fait ressemble au projet qui est porté ici, a été plutôt décrié par les journalistes. Enfin, ils ont fait une disant nous sommes un journal, nous ne sommes pas un bar, nous ne sommes pas un restaurant, nous ne sommes pas une start-up, nous ne sommes pas un incubateur. Enfin, tout ça a été sous-entendu. Donc, il y avait aussi ça qui était un peu délicat, non ?
Alors justement, quand j'envoyais le mail, j'avais peur qu'ils me prennent comme ça, donc j'ai pris beaucoup de pincettes. Mais on est vraiment, dans les échanges qu'on a pu avoir après, vraiment sur la même longueur d'onde. Tout l'intérêt de créer un lieu comme celui-ci, ce serait de mettre la rédac au cœur, et serait de voir comment le lieu peut alimenter justement cette rédac et permettre de réinventer un peu la manière de faire l'information. Donc nous, on le voyait vraiment avec les journalistes.
Est-ce que vous avez envisagé aussi d'inviter la direction de Libération, ou vous en avez parlé avec les salariés?
Non, c'est un sujet qui n'est pas venu. On s'est vraiment adressé plutôt là aux salariés, aux représentants du personnel. Avec le seul deal de départ, c'était de pas arriver sur un événement dans lequel l'objectif était de dénoncer les actionnaires. Mais c'était plutôt d'être sur une logique constructive et de se dire quel Libé on pourrait dessiner. Surtout pas arriver dans un débat et dans une dénonciation, etc.
Non, mais c'est peut-être par là qu'on aurait pu démarrer d'ailleurs, mais c'est qui les lecteurs? On les connaît très mal dans leur profil, et surtout... En fait, il y a justement cette espèce de communauté, mais qu'on connaît pas si bien que ça, de gens qui reviennent régulièrement. Et puis, les lecteurs du site, c'est aussi des gens qui passent une fois par mois, des gens qui passent 10 fois par mois. Enfin, voilà, on a cette catégorie-là et on les connaît pas très bien. C'est sans doute pas les mêmes que les lecteurs du papier, mais on sait pas très bien.
Non, mais ça a longtemps été une question tabou à Libé. Est-ce qu'un papier marche? Est-ce que s'il marche, on le met en avant ou pas? Longtemps, je pense qu'on a refusé l'idée de... À partir du moment où on n'est pas 100% payant et qu'on est gratuit, il faut quand même faire un minimum d'audience. Et récemment, il y a un outil que Marie déteste absolument qui a été installé sur la rédac, c'est Chartbeat. On a mis un grand écran et on voit Chartbeat. Alors Chartbeat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en direct à l'instant T, il y a l'audience sur le site. Voilà, et ça varie tout le temps, c'est marrant. On a l'impression de regarder un peu la bourse, il y a des flèches rouges, des flèches vertes, ça monte, ça descend... Et dans ce qui marche, c'est très varié. Soit il y a quand même, et pour tous les sites internet, il y a la puissance de Google News qui fait qu'à un moment t'as fait un papier, ou alors au bon moment il est pris par Google News, et là tout d'un coup il y a 2500 personnes sur le papier, je sais pas pourquoi, et ça dure plus ou moins longtemps. Soit de manière générale, ce qui marche, c'est les fachos Dieudonné et le cul. Et ma rubrique.
Cela dit, si on avait trouvé la solution ce soir, ce serait inquiétant. Enfin, à l'envers.
Justement, je vous invitais à... Dans 5 minutes, en fait, on va faire une restitution. Je vous invitais à essayer de faire une synthèse entre vous sur les principaux points. Voilà, super, merci.
Est-ce que ça correspond à l'idée que tu te faisais de cet événement?
Alors, ça reste un barcamp. Mais ce n'est pas dans un barcamp qu'on va trouver les solutions à tous les problèmes de Libé et réinventer le journal aujourd'hui.
Donc un barcamp, on a bien compris, c'est ces non-conférences, c'est-à-dire des réunions de personnes qui n'ont pas décidé de quoi elles allaient parler exactement. Il y a forcément une direction, mais dans le consentement collectif.
Et on se sert de cet événement pour 3 choses. 1, faire remonter de nouvelles idées. Donc les salariés de Libé sont aujourd'hui en train de réfléchir à leurs propres projets qu'ils peuvent présenter en réaction à celui des actionnaires. Donc comment est-ce qu'on peut trouver d'autres pistes auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. 2, débattre un peu autour des idées qu'ils ont, essayer de les mettre en perspective et les tester auprès d'un autre public et voir un peu ce qui leur sort. Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce qu'il faut les faire évoluer? Est-ce que ça va dans le bon sens, etc. Et troisièmement, essayer de mettre en relation les journalistes avec quelques personnes avec lesquelles on va pouvoir approfondir un peu ces sujets. On doit poursuivre le travail et c'est des choses qui vont se faire aussi de manière un peu plus fermée. Et je pense que de ces 3 objectifs qui sont assez mesurés, je pense qu'on les a pour l'instant atteints sur la première série d'ateliers, on va voir sur la deuxième.
Pause quelques minutes pour le flash dans l'atelier des médias. On vous revient juste après, à tout de suite.